Ce début d'année a été marqué par deux festivals très importants pour Estasia. Tout d'abord, le 11e festival du cinéma japonais contemporain de Kinotayo. Et par ailleurs, on va en parler juste après, le Black Movie qui s'est tenu à Genève à la fin du mois de janvier. Alors, à Kinotayo, donc, c'est un festival qui présente une sélection de films qui ont été produits dans les 18 derniers mois au Japon. On a parlé des films qui sont sortis en salle, comme Your Name de Makoto Shinkai, qui a été projeté en avant-première ou en après-première, on va dire.
Bon, en après-première, parce que voilà, c'était un mois après quasiment.
Les deux Fukada, donc Harmonium et Sayonara. Alors, comme Sayonara va être distribué par Survivance au mois d'avril en partenariat avec Estasia, on en parlera au mois d'avril, mais on peut déjà vous dire que c'est un excellent film aussi. Donc, on va se concentrer sur trois films. Des films qui nous ont le plus marqué et qui en plus ont eu des prix cette année, à commencer par Happy Hour, donc de Ryuzuki Hamaguchi, qui a été présenté comme le film fleuve parce qu'il dure plus de 5h30, mais ses qualités vont au-delà de sa simple durée, n'est-ce pas Nicolas?
Alors résumons, c'est l'histoire de quatre jeunes trentenaires, quarantenaires plutôt. Ouais, qui donc sont amis dans la vie.
Non, mais il a 12 ans, lui.
Donc, sont amis dans la vie, se retrouvent quelques jours dans la semaine ensemble pour sortir, je sais pas, vaguer à leur occupation ensemble, et qui se connaissent, enfin, deux d'entre elles qui se connaissent depuis l'école, et les deux autres qui se sont intégrés au groupe après, plus tard.
À la fin de la vingtaine.
Voilà, vers la vingtaine. Et du coup, donc voilà. Et donc, en parallèle de ça, c'est entre parallèles de ces scènes ensemble, on va suivre chacune de ces femmes dans leur vie de famille respective, sachant que elles ont à peu près, elles ont tous un statut différent par rapport à leur cercle familial, à leur mari ou absence de mari d'ailleurs. Et donc tout l'intérêt, c'est de voir justement, en fait, dans la première partie, on voit ce groupe assez soudé. Notamment autour de personnages, je ne sais plus comment ça, June, je crois, qui est celle qui sert un peu de catalyseur au groupe, c'est elle qui est amie avec une autre des filles au collège et qui a fait rencontrer cette fille avec les deux autres. Et donc, sur cette première partie, voilà, on en voit ce parallèle-là entre la vie de famille de chacune et leur occupation entre elles, quoi. Et donc à partir de là, le réalisateur va développer une espèce de film sur la manière dont impacte en fait leur relation entre elles par rapport à leur relation familiale. Et donc voilà, c'est un film un peu qui mélange différents styles. On peut penser notamment à Cassavetes par rapport à la manière de dépeindre justement les relations familiales. Ça fait penser
hein? À Bergman aussi.
Oui, à Bergman
et à Bresson,
aussi.
C'est une sorte de Bresson sous acide, en fait, le film.
Oui,
mais c'est vraiment.
C'est plus chaleureux que Bresson, enfin, pour moi, mais. Mais donc, en fait, il y a un événement.
Oui, voilà, c'est bon,
il y a un événement qui arrive donc vers le tiers milieu du film.
2h32.
Ça arrive, le milieu du film.
Heures, où la fameuse June, donc et le catalyseur, va disparaître. Parce qu'il y a une histoire.
Il y a un premier événement oui, là, déjà.
Oui, elle c'est dit,
elle annonce
son divorce avec son mari.
Ça commence à foutre le bordel
voilà,
dans le groupe.
Ça commence à foutre parce qu'elle l'a dit à quelqu'un et pas à l'autre, machin.
Une histoire de fille, quoi.
Une histoire de fille. Et ce moment, cet élément perturbateur va engendrer toute la deuxième partie où c'est un peu l'adage un seul être vous manque et tout est dépeuplé quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça va être le titre de ma critique d'ailleurs.
Michel, ouais.
c'est le titre de ta critique oui. Qui est déjà quasi.
Voilà. Il est déjà en ligne en fait.
En fait, c'est intéressant parce que tu vois un peu toutes les choses qu'elles se sont cachées, qu'elles se sont pas dites ou qu'elles ont dit à l'un et pas à l'autre. En fait, toute la manière. En fait, tu vois que on pensait qu'elles se connaissaient très très bien. En fait, elles se connaissent pas si bien que ça quoi au fond d'elles. Elles se connaissent pas leur caractère et il y a plusieurs moments dans le film où elles se disent un peu les quatre vérités. Et le fait que cette June disparaisse, en fait, elles savent plus comment se situer ni dans leur film familial ni dans leur vie tout court. Et donc c'est intéressant parce que ça parle un peu de l'incommunicabilité et les problèmes que ça engendre de ne pas finalement parler de ses sentiments à des personnes qui sont plus supposées être des personnes de confiance, qui sont supposées être des personnes dans ton cercle. Et donc toute cette évolution-là est vraiment intéressante dans le film.
Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que je vais faire le parallèle avec le film de Hong Sang-soo de Yourself and Yours et justement le film là, dont on parle. Parce qu'on pense, en fait, quand on parle de ce film-là, que, en fait, tout est en dedans, qu'on ne peut pas dire les choses, etc. En fait, le film de Hong Sang-soo dit la chose inverse, c'est que justement on peut extérioriser les choses et justement parler des problèmes sentimentaux qu'on a, etc. Et il y a un truc, c'est que faire un film de 5h30, je veux bien, c'est cool, franchement j'ai adoré ce film, mais en 1h20 on peut dire autant de choses, voire plus de choses.
Je suis pas tout à fait d'accord.
Effectivement, en 1 heure, on peut dire autant de choses. Sauf que, moi, ce qui m'a marqué dans ce film, que je trouve très rarement dans les films japonais et films asiatiques en général, c'est le naturel, en fait.
Ouais.
Y a un côté ultra réaliste, jusqu'au boutiste, où j'ai eu l'impression de me retrouver dans la vie de tous les jours, face à ce que je pourrais vivre, en fait, maintenant ou plus tard. Des discussions entre amis qui s'éternisent.
Mais qui sont passionnantes.
Mais qui sont passionnantes, mais quand on voit les scènes, elles durent 40 minutes, en fait, pour rien dire, mais c'est ce qui se passe en réalité.
Mais non, c'est ce qui se passe là, dans ce podcast.
C'est ce qui se passe en vrai dans notre vie tous les jours, en fait.
Je suis pas tout à fait d'accord.
Non, mais pour rien dire, mais ce que je veux dire, c'est que dans un format cinématographique, on pourrait résumer ça, en fait.
Mais juste pour
rien. Là, ça prend le temps quasiment de la réalité.
Oui, voilà. Mais justement, c'est ça qui est super intéressant dans le film, c'est que les scènes de dialogue sont très étirées parce que. Au fur et à mesure, par exemple, la grosse première scène de dialogue, juste après une énorme séquence d'expérience séminaire sur la communication et la transmission, justement. Ouais, mais celle-ci, dans la mise en scène, il se passe énormément de choses.
Non, mais quand je dis qu'il se passe pas grand-chose, c'est en termes d'histoire et de scénario.
Il y a cette séquence de séminaire où, déjà, par la mise en scène, la manière de mettre dans le cadre certaines personnes ensemble, les exercices qu'ils font, par exemple, quand ils s'écoutent
au niveau du nombril,
tout ça, l'espèce de relation, des regards qui se font dans la mise en scène, tu vois tout de suite l'espace qu'il y a entre certains personnages et certains autres personnages, et après, tous ces personnages se retrouvent dans une espèce de... à boire un coup un peu à la hausse en dessous, justement, autour de saké, tout ça, machin. Et ça, c'est là où tu vois justement que ça parle pas pour rien, parce que au fur et à mesure, tu penses au début justement, tu penses que la discussion va être un peu pour ne rien dire, comme ça, ça a l'air un peu amusant, et puis au fur et à mesure, la discussion va être complètement plombée par certains problèmes qui refont surface avec certaines personnes qui n'étaient pas au courant, machin. Ça commence à créer des distensions et tout. Et dans la mise en scène, il arrive à capter ça, et notamment parce que c'est étiré et parce que ça laisse le temps au personnage d'amener les différents sujets dans la séquence de dialogue. Et c'est vraiment passionnant la manière dont...
Je voulais juste amener ce que j'avais commencé à dire, même si c'était très intéressant ce que tu as dit, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voulais dire, donc c'était très réaliste, que ça prenait le temps, comme la vie qu'on vit au quotidien, et que j'ai été bluffée. Alors je sais que certains ont dit que les... enfin, toi, notamment Victor, a dit que t'avais l'impression que les acteurs récitaient leurs textes.
Je suis pas d'accord.
Et moi, j'ai...
C'est ce que j'aime bien.
D'accord, ce que t'aimes bien. Et moi, j'ai trouvé en fait que c'était l'une des rares fois où j'ai vu des acteurs aussi naturels qui ne surjouaient pas, en fait.
En fait, c'est pas dans le jeu des acteurs. Je trouve que l'écriture est très précieuse.
Oui, d'accord. Il y a une précieuse
dans l'écriture où c'est extrêmement écrit.
Après, il y a peut-être des problèmes de traduction aussi.
Il y a beaucoup de circonvolutions pour dire quelque chose.
Mais c'est peut-être japonais aussi, en fait, ça.
Non,
c'est sûr aussi, en fait.
C'est ce qui ressort de l'entretien que j'ai eu avec un des producteurs du film. Justement, je lui ai posé la question à savoir comment ils avaient travaillé en fait le film et comment justement ils avaient répété les scènes. Et lui me disait, je lui posais la question justement à savoir. Votre mise en scène est très bressonienne, et du coup il me disait oui, mais au fait on s'est inspiré de ça, et il n'y a aucune d'improvisation, c'est véritablement que du texte appris par cœur.
Bah, c'est ça, parce que dans la mise en scène, la manière.
Naturel en même temps.
Si c'est avec de l'impro, il n'aurait pas eu autant de maîtrise dans la mise en scène par rapport à la manière dont il filme ses acteurs.
Quand tu parlais de Cassavetes justement au début, en fait, le film est né d'un atelier d'improvisation.
C'est ça qui est bizarre en fait. C'est
que... un certain nombre d'acteurs qui ont improvisé. Et ensuite, à partir de ça, plusieurs propositions de scénarios ont été.
Deux scénarios ont été
aux acteurs. Il y en a un qui a été choisi et les dialogues ont été écrits en fonction des acteurs qui allaient rester les acteurs. Donc, du coup, ce côté extrêmement très naturel du jeu des acteurs. Qu'on peut retrouver chez Cassavetes par exemple, qui partait d'improvisation, n'est pas contradictoire avec le côté brassonien dont on parlait, avec ce côté très, très précieux, très diction,
savoir que le scénario était aussi épais en fait que le descriptif des personnages pour chaque personnage, ce qui fait que je pense que c'est pour ça que j'ai senti un certain naturel. C'est que j'ai eu l'impression que les acteurs n'étaient plus des acteurs. Et ça m'est assez rarement arrivé, notamment dans des films asiatiques où c'est peut-être, là je pense que c'est culturel, mais il y a un certain surjeu en fait naturel, surtout au Japon, mais en Corée aussi, tu me diras. Et moi je me suis laissé prendre au jeu en fait, sur 5h20 que j'ai fait en deux fois, donc même pas en trois fois comme les projections. Ça coulait de source. J'ai juste eu l'impression de regarder la vie de certains de mes potes et pendant 5 heures quoi. Moi, c'est donc c'est pas, fait... c'est pas c'est pas comment dire c'est pas incroyable, c'est une vie quotidienne, c'est une tranche de vie. Il y a pas des événements complètement fous qui arrivent. Mais ça passe nickel.
Mais autant le côté effectivement très écrit des dialogues moi, c'est quelque chose que j'ai plutôt aimé dans le film. Autant, par contre, les intentions sont parfois soulignées. On en parlait justement avec Jérémy en sortant de la séance. Les intentions du réalisateur, la mise en scène et l'écriture est assez appuyée par rapport à ce qu'il veut montrer.
Oui.
Et c'est justement sur la fin qu'on sort du côté très quotidien des choses.
Oui.
Et que des événements un peu plus importants, un peu plus tragiques...
C'est bien passé, c'était à la fin, donc
j'ai.
Il voulait faire un petit peu de Dostoïevski, et il a manqué le côté Dostoïevski, je pense.
Justement, moi, c'est ce qui m'a. Moi, j'aurais justement pas trop aimé le film s'il a été parti du côté Dostoïevski, mais. Tout le monde sait. Non, mais si, il aurait fallu que ça parte un peu du côté un peu norté, les trucs comme ça. je vois le truc. Mais moi, justement, je trouve que. Y a, en fait, le côté un peu.
Norté, c'est une adaptation de
Kim Shetty. Oui.
Non, mais moi, j'ai pas vu Norté, donc je vois pas ce que vous voulez dire en parlant de Dostoïevski.
Mais oui, c'est pour ça que.
Expliquez-moi, en fait.
Pour le coup, la dernière partie, c'est vraiment. Elle dénote complètement du reste parce que
on quitte ce
quotidien là pour arriver dans quelque chose de plus drama.
C'est du drama, mais en même temps t'as ce côté un peu un peu pas de cartoon, mais le côté tous les personnages tombent par exemple ou des trucs comme ça. Il y a un côté en fait, il y a vraiment les personnages,
mais ça tu l'as dès le début, ça.
Non, mais oui, mais il y a quand même ce personnage justement ce moment où le personnage s'en va. Et tu vois cette manière aussi de partir dans le côté un peu plus
oui,
drama.
Mais c'est intéressant.
Et les personnages qui perdent pied. Hein,
non, mais c'est
dans la manière.
Ils arrivent pas à s'accrocher, quoi.
Ils
arrivent pas à s'accrocher, ils ont plus de repères.
Mais
c'est une manière de le montrer, je trouve ça.
Dans la manière de le montrer.
C'est les 30 dernières minutes.
C'est ça. Et dans la manière de le montrer, dans cette façon de vraiment de se faire enchaîner les événements. Tu sens qu'il y a quelque chose qui
est un peu naturel.
Oui. Voilà. Tu sens que le naturel, il est plus là et que c'est du.
J'avoue, c'est vraiment genre. Forcé,
le mec, il quitte sa femme, il sort, il a un accident de voiture, on se croirait dans Santa Barbara, tu vois. C'est genre.
Si tu prends ton temps pour 45 minutes.
C'est vrai que la fin est peut-être un peu accélérée. Tu sens, en fait, qu'il veut bousculer un peu à la fin. J'avoue que c'est peut-être.
Ça m'a pas si gêné que ça.
Ça m'a pas gêné.
Sur la vision, ça m'a pas gêné. Maintenant que j'y réfléchis,
ça m'a pas gêné, mais j'ai pas trouvé ça cohérent.
Pressé, en fait. C'est peut-être. C'était pas nécessaire.
C'est comme s'il dégringolait tous, quoi.
Ouais, mais il y a un basculement dans le rythme. Je voulais
dire un truc par rapport à la séquence de boîte de nuit.
Peut-être. Ah oui, non, c'est vrai.
En fait, oui, c'est ça. C'est que, en fait,
ah oui, avec le chef.
Oui, c'est ça. Il y a une séquence dans le film.
Ah,
une séquence de boîte de nuit où c'est complètement
kaléidoscopique.
Waouh, vous avez essayé de dire. Et le film est complètement hallucinant parce qu'en fait, t'as l'impression que tu vois un vieux crouton comme Romer Et au fait,
bah, le personnage, il est romérien à mort.
Ouais, hein, mais au fait, tu vois un film.
C'est parce que le kiné qui.
Mais c'est ça.
Pour le film japonais.
Mais tu vois un film qui est super moderne, et justement, tu rentres dans ce mélange qui est complètement baroque entre Romer et entre Balzac. Et entre le mec qui a fait Happy Hour. En fait, tu rentres dans un maelstrom qui est complètement what the fuck, et tu rentres là-dedans, et t'es là genre, oui, ok, Romer, et au bout d'un moment, t'es là genre, mais non, en fait, c'est pas Romer. En fait, tu te rends compte, quand tu regardes le film, que tu es en train de regarder un film autre que ce que tu étais en train de regarder avant. Et là, tu perds tes repères, et c'est là où tu es déstabilisé, et où justement, tu commences à prendre tes béquilles. Et voilà, et justement, le réalisateur là qui a fait ce film-là, il met des béquilles au temps précis où il faut les mettre.
Oui, oui.
Mais c'est peut-être aussi parce qu'il suffit
trop
des.
Trop puissant ce que je veux
dire. Jean-Claude Van Damme sort de ce corps.
Ça se passe, c'est aware. Moi je vois le mec, t'as des béquilles rouges, je dis tu vas me choisir, tu vois, je suis aware.
Franchement, les béquilles, mets les béquilles.
Les béquilles, exactement.
Mets les béquilles.
Mais c'est vrai, c'est
un enjeu. Ben oui.
Alors,
moi je trouvais que oui, après tout ce que vous avez dit, il s'autorise quand même des trucs dans la durée, justement. Par exemple, la lecture de la nouvelle de la jeune fille qu'on lecture, a en ouais. intégralité. Oui.
Ça, la lecture publique, elle est géniale.
Et ça, c'est un truc assez intéressant en fait.
Et toute la scène suivante qui est une digression sur la signification de cette lecture.
Oui, oui.
Et sur aussi, on n'en a pas parlé, du travail d'écriture aussi.
Oui, c'est ça. Parce que le film fait une espèce de mise en abîme assez douce quand même, parce que c'est pas appuyé par la scène et tout.
Ça arrive au bout de 3 heures.
En plus, c'est assez doux quand même.
Et
ouais.
On a le temps d'avoir cette réflexion sur ce qu'on est en train de voir.
Et justement, et en fait, on se rend pas compte qu'en fait, on est en train de suivre une histoire dans le film. En fait, elle a une influence sur les personnages dans le film et sur nous qui regardons le film. Ça, je trouvais ça vachement intéressant en fait.
En tout cas,
et ça révèle aussi un des personnages.
Oui, le personnage du mari de June.
Qui en fait, n'est pas celui qu'on croit, même s'il reste quand même une espèce de socio.
Il est un petit peu japonais quoi.
Oui, voilà.
Sociopathe.
Donc japonais.
Le mec, tu m'aimes pas, je m'en bats les couilles.
Voilà, c'est ça, je m'en bats les couilles.
Moi, je t'aime, c'est tout.
C'est ça.
Je comprends ton point de vue, je vais quand même.
C'est ça.
À te poursuivre
jusqu'au bout.
Parce que
c'est le sens de ma vie.
Dans un personnage de Kurosawa, justement.
Faites exploser mes pouces bleus.
Qu'est-ce que tu dis? De Ryuzuke Hamaguchi, qu'on a vu à Kilotayo, qui a déjà fait le tour des festivals, que vous verrez peut-être un jour en France.
Ou pas.
C'est m'étonne. En tout cas, cinéma 5h30.
Il faudra juste rappeler que les actrices ont eu le prix au festival de
Locarno.
C'était pas rien.
Oui.
On va passer à la pêche des huîtres au Japon avec Oyster Factory de Kazuhiro Soda.
Shiro.
Qui ne voulait pas voir ce film et a été finalement happé par Elvira.
Par Elvira. Moi, je voulais pas voir le film parce que j'avoue qu'il y a un documentaire sur la production d'huîtres au Japon. Ça me faisait particulièrement chier en avance.
Mais t'as pas vu Campaign?
J'avais pas vu Campaign.
Ah bah voilà, c'est pour ça.
Je savais que c'était un bon cinéaste. Mais autant Campaign sur le papier, ça m'intéressait. Autant là, Oyster Factory, j'étais putain, ça va être chiant.
Pas du tout.
Et en fait, c'était. J'adore les huîtres, mais c'est pas le problème.
Ça donne pas du tout envie d'en manger.
Et par contre, ça donne pas. Alors, moi, la grande question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils font de ces huîtres ouvertes en fait? Comment ça se fait que ça meurt pas? Voilà.
Ouais.
Je ne sais pas comment les Japonais mangent les huîtres.
Parce que moi, mon cousin, il chie des huîtres.
Je ne comprends pas comment ces huîtres font pour ne pas pourrir en fait. Quand elle est ouverte, quand tu la manges à Noël, elle est à moitié morte.
C'est de les ouvrir, de récupérer l'huître, et de les envoyer pour la.
Doivent mettre un espèce de produit pour les conserver.
Je ne comprends pas comment c'est possible.
Et après, je pense qu'ils les font cuire.
Ils les mangent différemment de nous, en tout cas. Bref, donc on suit en fait. Je sais plus où ça se déroule. Ushimato, qui est à côté de je ne sais pas quelle ville, un petit village japonais spécialisé dans la pêche aux huîtres.
La pêche,
oui. Et donc, Soda en fait suit plusieurs usines en fait de production d'huîtres. En fait, on suit les ouvriers qui passent leur temps à dépiauter les huîtres, ce qui est pas très ragoûtant. Que dire d'autre en fait? Bah, c'est donc ce documentaire, on va dire, situe en fait après donc Fukushima en fait, où plusieurs producteurs ont dû déménager puisque la production est très très limitée voire interdite en fait dans la région. Et ce sont
débat du film.
Voilà, et on débat, mais ce qui est intéressant, c'est que le débat est pas super frontal en fait. On suit.
Non, c'est juste un personnage à un moment qui dit qu'il a dû déménager.
Mais c'est naturel en fait. C'est pas comme si le réalisateur poussait les producteurs à leur dire alors vous êtes partis.
De toute façon, Soda, c'est pas du tout sa manière de faire.
Moi, je connaissais pas en fait. Donc ils sont venus dans cette région là et on les suit aussi en attente d'ouvriers chinois puisqu'ils en reçoivent plusieurs en fait pour les saisons d'huîtres. Et avec un petit racisme ordinaire japonais à l'encontre des Chinois.
C'est voleur.
Il y en a un surtout, ouais, qui
balance. Il y en a un, en fait, voilà, les Chinois sont des voleurs, faut rien laisser traîner, ils volent tout dans les chambres d'hôtel.
Ah, c'est pas la même façon de penser que nous. En fait.
Mais voilà, mais moi, ça m'a pas choqué, hein, ça m'a absolument pas choqué. En fait,
qu'il y en a un qui a démissionné et ils disent qu'il est.
C'est comme des glandeurs, quoi.
Le même travail qu'une femme. Voilà, bah c'est une mentalité très conservatrice.
C'est simple. Mais oui, c'est un petit village rempli de vieux. Il n'y a quasiment pas de jeunes. Pour eux, les Chinois, c'est juste des glandeurs et des voleurs. Voilà, c'est des stéréotypes qui traînent, en fait. Et donc, en Suisse, on suit la vie de ces petits producteurs, en fait, pendant 2h30, avec une bonne 20 minutes sur un chat. Sur des petites anecdotes.
Chiro le chat bleu.
Voilà, Chiro. C'est juste super intéressant. On apprend plein de choses sans que ce soit forcé. C'est un vrai documentariste, en fait. Il y a un côté quasiment reportage, parce qu'on l'entend parler derrière sa caméra. Il n'y a pas de voix off. On l'entend communiquer. Presque les bêtisiers sont laissés en fait dans le film, c'est pas.
Son principe, c'est de faire. Alors c'est son sixième film d'observation en fait. Et
l'idée,
c'est qu'il n'y a pas d'intertitre, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de musique rajoutée. Il a une méthode qui est tirée du cinéma direct, donc de Weitzman par exemple, où en fait il va dans un lieu, il connaît pas forcément le sujet, il a vaguement en tête, voilà, un plan de tournage. Donc là, il arrive en disant je vais suivre un pêcheur. Et en fait, il se trouve que ce pêcheur a une usine d'huîtres. Il se trouve que cette usine d'huîtres va accueillir des ouvriers chinois. Mmh. Et donc, au fur et à mesure, le film se fait. Donc, le film se déroule sur 7 jours. Parce qu'au bout de 7 jours, on lui a demandé d'arrêter de tourner. Donc voilà, il y a des personnages qui ne voulaient plus apparaître à l'écran de peur d'avoir des problèmes avec justement la compagnie qui amène les Chinois. Et donc, il a cette démarche de filmer de manière extrêmement directe. À partir de l'observation, sans aucun préjugé, le Japon contemporain. Un Japon est en train de disparaître.
Et du coup, on suit avec lui sans aucun préjugé non plus. En fait, on évolue en même temps que lui en fait durant le film.
Ouais, c'est ça en fait. Ouais.
Bah, voilà. Ouais. Et non, mais c'est rare en fait. C'est rare parce que quand on regarde un documentaire, on sent qu'on est amené vers quelque chose, alors que là, on découvre le sujet en même temps que le cinéaste. Et du coup, c'est passionnant et je pensais pas pouvoir m'intéresser à la production d'huîtres au Japon en fait.
Parce que tout simplement, c'est pas juste l'unique sujet du film.
Non, c'est pas l'unique sujet du film, mais en même temps, c'est tout le microcosme qui tourne autour.
C'est ça qui est intéressant, mais tu te doutes, enfin, quand tu connais pas Soda, non, tu t'en doutes pas forcément, mais tu te doutes que si tu présentes le film comme on va rester plus de deux heures, parce qu'en fait, le documentaire dure 2h20, je crois.
Mais moi, je connaissais pas Soda, c'est pas juste pour toi,
c'est juste la main.
C'est pas
enfin, moi aussi, hein, si je connaissais pas Soda, j'aurais dit putain, 2h20 sur une usine d'huîtres, ça va être chiant, machin, tout ça. Bon, Il se trouve que quand j'ai su que c'était lui qui avait fait le documentaire, j'ai dit tout de suite, ça va être passionnant, ça va pas être que ça. Il va vraiment s'intéresser à cette ville, il va prendre le pouls de cette ville. Il va y avoir forcément des scènes insolites dans le documentaire, comme il y en avait pour
Contact. Le mec qui tombe à l'eau.
C'est génial, cette séquence.
Les scènes avec
le chat.
Le chat, c'est génial aussi.
Tu sais qu'il va y avoir plein de petites digressions et que ça va pas être très carré, très machin, comme
90%
des documentaires chiants qui passent sur TF1.
Et c'est pas hors sujet non plus.
Quel documentaire passe sur TF1?
Non, c'est sur Arte, tu parles.
Ouais.
Non, mais ça.
C'est des reportages.
Mais du coup, c'est vrai que ça va à l'encontre de la plupart des reportages télé, dans lesquels les journalistes, pour des questions, bah, parfois de temps, parfois de.
Oui, souvent de temps.
Parce qu'il y a journalisme et cinéma.
Qui ne peuvent pas aller au-delà de certains préjugés qu'ils peuvent avoir sur.
Kenny James!
Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très rafraîchissant dans le cinéma de Soda et de très nécessaire actuellement de montrer le monde dans une forme d'un cinéma très subjectif,
du coup,
mais sans aucun
cinéma subjectif.
Il boit du coca pendant deux heures.
Il a un côté très naïf quand il arrive en fait. Quand il arrive pour filmer, il a un côté super naïf et avide de connaissances et de partage et de communication avec les gens, tout passe super bien, même comme je disais, les discours racistes en fait.
Ça passe bien.
Il n'y a pas de justification à avoir en fait. Laissez-moi expliquer, bordel. Il n'y a pas de justification en fait à avoir.
Il n'y a pas de jugement.
Non, mais c'est à nous de juger si on n'est pas d'accord ou pas. Mais
il montre tout. Quoi.
Mais je juge pas. Hein.
Non, mais tais-toi, quoi.
Je suis blanc.
On sait que t'es blanc.
LOL! Oh fuck!
Ça fait deux fois qu'effectivement t'évoques le discours raciste qui peut être un peu choquant effectivement quand on le voit. Moi j'avais hésité à lui poser la question. C'est quoi?
Il m'a fait rire parce que c'était les vieux japonais là, dans leur trou du cul du monde.
Voilà.
Et quand même, tu le sens un peu quand il en parle, tu dis ah oui, les Chinois volent dans les hôtels, vous pensez
oui,
voilà,
ah oui,
voilà,
évidemment, c'est tellement
absurde. Mais
c'est tellement absurde en fait,
voilà,
comme phrase.
Où il intervient. Mais c'est vrai qu'il est dans cette démarche où finalement il n'a pas jugé les gens qui sont devant sa caméra. Et il a montré une réalité qui est là. Enfin, lui, son
après, il en pense ce qu'il veut, mais il ne le montre pas en
voilà,
fait, dans
aucune,
le film.
Il
estime qu'il n'a pas à le montrer, c'est pas à lui de dire ce qu'il pense. Et après,
même
nous, on se met en privé.
En fait, on sait très bien ce qu'il pense.
Il parle
à une autre personne, il dit qu'il vient d'un milieu. Oui. Qu'il vient de New York, donc du coup qu'il est dans un milieu
cosmopolite, culturel.
On connaît aussi son point de vue.
Non, mais on le connaît, je pense que les autres sans doute aussi en fait, mais ils en ont rien à battre déjà.
Mais il y a
un naturel en fait qui est super rafraîchissant, c'est que dans les deux côtés en fait, lui il va quand même les pousser un peu dans leur retranchement en disant c'est un peu bizarre votre phrase quand même, tous les Chinois ne volent pas. Et les Japonais disent Mais si, ils volent tous, c'est comme ça. Et on en reste là, en fait. Il n'y a pas.
Pas de plus de débat.
Non, et il n'y a pas besoin d'en avoir plus, en fait. Il est juste là pour filmer ce qui se passe dans cette petite ville qui est vouée à disparaître. Et point barre.
Du coup, on attend le prochain se passe dans la même région qui suit aussi un pêcheur et il fait un film.
Le retour de l'huître.
Elle n'est pas contente.
Les Chinois sont retour.
C'est un film aux États-Unis. Et par ailleurs, je ne peux que vous conseiller d'essayer de le trouver, son film sur la politique japonaise qui s'appelle Campaign 2, qui est assez incroyable, où il suit un homme politique.
Un film valsien.
Je
l'ai
dit
tout à l'heure.
Le premier, en tout cas.
Ah, c'est un peu plus dur.
Mais je pense juste si on peut parler de Campaign vite fait, ce qui est intéressant dans Campaign, c'est qu'il suit le même personnage, donc un homme politique à je sais pas combien d'années entre deux élections, mais en tout cas c'est pas les mêmes élections. L'un qui a été tourné en 2008, je crois 2009, et l'autre en 2013. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le premier, en fait, l'homme politique est complètement dans le système. Alors que dans le deuxième, il est complètement hors système. Et c'est toute l'évolution qu'il y a entre ces deux manières de penser par rapport au personnage qui a évolué entre les deux, vu par rapport aux désillusions qu'il a dans le premier.
Voilà,
c'est le même personnage.
Ouais, comme il a vécu, bon, sans spoiler, il a eu des désillusions par rapport aux élections dans le premier, parce qu'il était vraiment dans le système, un prisonnier, et que tout ça, au Japon, c'est peut-être encore pire qu'en France à ce niveau-là.
Nique le système.
Et bon, on peut le dire. Et de voir après son évolution de son regard par rapport au milieu politique de son pays. Dans le deuxième, c'est vraiment intéressant.
Donc Happy Hour et Oyster Factory ont tous les deux eu le Soleil d'Or ex aequo, le prix du public à Akeno Taiyo 2017, ce qui est vachement bien, parce que généralement, ce ne sont pas forcément les meilleurs films qui ont les faveurs du public, mais cette année, c'était le cas. Et par contre, le troisième film qu'on va mettre en avant, qui va lui aussi sortir, puisqu'il a été acheté par Survivance.
Il devait être troisième, derrière.
Et en tout cas, il a eu le prix de du jury presse. Ou du jury d'ailleurs, tout simplement, c'est Bangkok Night, le nouveau Tomita. Kefren, je crois que tu as beaucoup aimé.
Bangkok Night, ça parle de la prostitution thaïlandaise à Bangkok. Et en ayant comme porte d'entrée la prostitution en Thaïlande, le réalisateur entreprend de donner comme ça un portrait. Du pays de la Thaïlande comme ça à travers le voyage justement de cette prostituée qui vient de la campagne et de Nong Khai du nord de la Thaïlande et qui dans le même temps entretient une histoire d'amour avec un ancien client qui était devenu un amant et qui est un ex-amant mais qui essaye de revenir dans sa vie et justement en suivant le parcours de ces deux personnages il entreprend de donner comme ça une espèce d'esprit du temps de la Thaïlande contemporaine à travers les différentes rencontres des personnages et les différentes situations dont ils sont impliqués, notamment entre l'amant qui va au nord de la Thaïlande et découvre l'histoire du pays et ses fantômes, et la prostituée qui, elle, est dans le monde moderne et découvre le versant, nous dévoile les coulisses de la prostitution avec les clients japonais, etc. et comment fonctionne Bangkok. Mais le film est très onirique et justement n'est pas hyper réaliste, hyper plombant malgré le fait qu'il aborde des sujets lourds ou sombres.
Nicolas ?
J'ai beaucoup aimé aussi parce que justement, il n'y a pas de jugement par rapport au milieu de la prostitution thaïlandaise. Et c'est justement intéressant parce que quand on compare au travail de Soda, qui est un documentaire pur, et le film de Tomita, qui est une fiction pure, il n'y a pas tant de différence que ça dans la manière, finalement, de point de vue par la manière de filmer ces personnages. Et parce que Tomita, il s'est immergé en tout cas dans cette communauté là, et il a vécu avec. Et ça sent parce que t'as vraiment l'impression que il y a quasiment pas de frontières, de limites entre la fiction et la réalité quoi. Et c'est intéressant parce que comme dit Kefren, c'est jamais vraiment lourd, c'est pas sombre. C'est un milieu dur, qui s'est montré tel quel, mais dans la manière de le filmer, ça reste assez doux au final. C'est une espèce de chronique de 3 heures où on voyage en Thaïlande, comme si on partait comme ça, on prenait l'avion et puis on allait voyager. Et du coup, on ne ressent pas du tout d'ennui pendant 3 heures parce qu'on est vraiment immergé dans ce pays, dans ses traditions et dans la manière dont il évolue par rapport au monde contemporain. Et puis surtout les personnages sont des beaux personnages à travers les milieux un peu durs qui côtoient, ils sont vraiment des personnages qui ressortent de ça et qui leur redonnent une certaine brillance quoi. Et c'est vraiment un très beau film.
Et du coup on aura l'occasion d'en parler de façon beaucoup plus longuement quand il sortira et que tout le monde l'aura vu. Il y a fait un petit tour de table déjà pour savoir s'il y a un film que vous voulez évoquer qui était là cette année avec Mosaïo et si dans l'ensemble vous avez trouvé que c'était un bon festival. Flavien, tu en pensais quoi de cette édition 2016 de Mosaïo?
Alors pour avoir vu quelques films, moi je trouve que c'était plutôt une sélection surprenante. Déjà un grand bravo pour Happy Hour parce que franchement c'était un pari qui était très risqué être un film de plus de 5 heures et tout, c'est vraiment pas évident. Et,
il y avait du monde dans la salle.
Il y avait du monde et peu de personnes qui sont parties pendant la séance.
Et du coup, il y a eu le soleil d'or, donc il a été apprécié. Oui.
Donc il a été vraiment apprécié.
Après, si les gens sont restés jusqu'au bout, c'est que de toute façon, ils ont aimé, donc c'est pas étonnant qu'ils aient le soleil d'or.
Enfin, oui,
ça marche. Surtout que. Qui n'a pas eu une seule critique négative, enfin une seule note négative en fait.
C'est beaucoup plus surprenant de la part de Star Factory, mais c'est très très bien.
Non, je suis pas sûre, parce que comme j'ai dit, moi j'étais un public lambda en fait sans connaître Soda et ça a vachement marché sur moi, je vois pas pourquoi ça aurait pas marché sur les autres en fait.
J'ai pas pu voir tout ce que le festival proposait. Je sais que les autres collègues à côté ont vu plus de films, donc je pense qu'ils seront plus aptes hein, à dire vraiment si dans l'ensemble c'était plus cohérent ou du moins s'ils savaient.
Oh, il y avait son nom de merde aussi, hein, mais souvent à Tinotaï. Comme par exemple.
C'est pas si mal.
Il y a un autre film qui avait eu une mauvaise note.
Artist of Fashion.
Je suis même pas allé le voir.
Arrêtez un peu les haters là. Je veux
dire un mot sur Adachi.
Tu es donc fan des cocos séniles de plus de 70 ans.
Bah, justement, en fait, c'est là où on aurait pu penser que ce film-là était justement un film d'un réactionnaire bobo un autre adjectif, il m'en faut un autre, mais genre un mec qui peut croire à rien, quoi. Et c'est, en fait, c'est... Mais même pas, juste...
Mais en fait, c'est...
Un bobo, quoi. Mais en fait, c'est même pas ça, parce qu'en fait, le film, ce qu'il a réussi à faire, et ce qui était très bien, c'est que justement, il a réussi à faire un film qui n'était pas une ressucée du pseudo... idéalisme avec genre je me suce la bite et tout quoi.
T'es dans le thème ressucé sur sa bite.
Oui, bien sûr. Et le film a finalement été pas mal, mais voilà, il balançait la sauce.
Fin de la métaphore.
Métaphore enfilée, si j'ose dire.
Très bien. Oh, bon.
Quel poète.
J'arrête là.
C'est bien. Personne d'autre l'a vu que toi, de toute façon.
Si, moi, j'ai vu. Ah, c'est bon. C'était pas si mal.
J'ai pas compris
la blague sur Charlie.
Adachi pour savoir qui est ce cinéaste. Donc, qui est tout sauf un bobo d'ailleurs, et qui est toujours interdit de sortie de territoire au Japon suite à ses actes révolutionnaires donc, dans les années. À la fin des années 60 et au début des années 70. Ah. Kefren, t'as un coup de cœur ou un petit.
Destruction Babies.
Oui.
T'es seul à l'avoir aimé.
Destruction Babies.
De la merde. J'aime bien.
De la merde, la surmerde.
D'ailleurs, je comprends pas pourquoi les autres l'aiment pas.
Bah, à un moment donné, il va peut-être falloir te poser des questions si t'es seul à aimer, non?
Non, justement. Bah, j'ai des questions sur vous, mais pas sur moi.
Ah, bah oui, forcément. Jamais sur toi.
Et pas sur moi non plus, parce que.
Jamais.
Je sais que j'ai bon goût.
Bah oui, forcément.
Et donc, Destruction Babies, ça raconte. Ah ouais, bah, ça raconte l'histoire de. C'est pas vraiment une histoire, d'ailleurs, c'est un espèce de moment.
Oui, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de mise en scène.
Il n'y a pas grand chose en fait.
Si, il y a beaucoup de choses. Et donc, ça raconte l'histoire de deux frères, dont l'un commence à se tabasser avec tout le monde dans la rue, comme ça, et le film commence avec 20 minutes.
Et termine d'ailleurs.
De baston. Et genre, c'est juste un garçon qui se promène dans la rue et qui voit des gens, et il commence à les taper, et les gens se le tapent, et jusqu'à ce qu'il les mette KO en fait.
Ou qu'il se fasse mettre KO lui.
Oui, d'ailleurs, aussi.
Il se fasse mettre KO.
S'il peut se faire péter la gueule, c'est bien.
Et son frère, lui, contrairement. Les deux, ils sont des espèces de marginaux. Et son frère, lui, est un espèce de skater qui vit une vie de gong japonais, comme ça, de skater. Et un troisième personnage vient s'ajouter à l'histoire. Enfin, deux autres. C'est un autre garçon qui s'était fait frapper la première fois. Et qui voit le protagoniste principal qui frappe tout le monde un moyen de s'émanciper, de devenir lui aussi aussi puissant que l'autre.
et une fille qui est une espèce de prostituée, d'adolescente prostituée, comme il y en a des dizaines dans le cinéma japonais depuis les années 90.
Peut-être qu'il y en a dans le, comme il y en a aussi des milliers au Japon.
Oui, il y en a des milliers au Japon, justement.
Ouais, une girl, quoi, en fait.
Et qui reste un mystère pour les Japonais eux-mêmes. D'ailleurs, ils ne savent pas pourquoi les filles font ça.
Et puis un mystère pour le monde entier.
Oui, exactement.
Pourquoi à 17 ans tu fais ça?
Alors qu'elles n'en ont pas besoin, etc.
Pour un sac à main, voilà.
Et donc, justement, cette palette de jeunes gens est un peu le portrait de la jeunesse japonaise contemporaine qui est un peu désorientée, perdue, et que justement le film tente de mettre en scène à travers une violence que justement ils n'ont pas, vu que dans le réel ils se font marcher dessus par le système. Et le film justement,
les gens,
et le fameux,
oui, et justement, le film tente comme ça de leur donner un moment de violence, d'éclair à travers une virée sombre qui révèle chacun des protagonistes, qui est en fait un archétype des jeunes japonais, et qui leur montre que malgré tout, se battre contre la société, ça a une certaine valeur, enfin qu'on peut se retrouver à travers le combat, et que justement c'est l'inactivité qui les perd justement. Et chaque personnage se dévoile comme ça à travers cette violence.
C'est donc Destruction Babies qui va clore notre débat sur Pinotaio. Donc dans l'ensemble, c'était plutôt une bonne édition, cette édition 2017, et dont on espère reparler de certains films cette année. Le deuxième festival qui...
Ah oui.
Moi aussi, j'ai eu un coup de cœur. Okay.
Ouais, c'est le seul film que t'as vu en même temps.
Voilà.
Sayonara.
Ah, Sayonara. Ah, mais on en reparlera en avril.
Voilà, mais je voulais dire que c'était un coup de cœur du Pinotaio. Voilà.
D'accord.
Mais en même temps, c'est le seul film que j'ai vu, donc...
Ça, c'est bien.
C'est
bien
génial, Sayonara.
Mais Sayonara est tout à fait génial. Bah. Donc on en reparlera de toute façon assez vite, puisque après, ça va arriver rapidement. Et donc l'autre festival du mois de janvier qui s'est tenu du 20 au 29 janvier à Genève, et dont on est partenaire, parce que c'est certainement un des meilleurs festivals du monde, encore aujourd'hui, c'est le Black Movie. Kefren et Gaël, vous y étiez cette année. Alors première question, je crois que c'était la première fois que vous alliez au Black Movie. C'est quoi vos impressions sur l'ambiance?
Il y a beaucoup de crack en vente dans la ville de Genève. C'est ça la première. D'ailleurs on dit Genève.
En fait le festival est super intéressant et l'équipe est très accueillante. Et l'organisation aussi est super.
Gaël, c'est quoi tes impressions sur le festival? Je crois que c'était la première fois aussi que tu le couvrais.
Oui, en fait, j'y suis allé pour Cinématrack. Et donc, c'est effectivement la première fois que je couvrais ce festival. Et effectivement, enfin, on va pas revenir sur Genève.
Genève.
Genève. C'est un peu comme Rennes, quoi, enfin, dans le mari là de la Céline Dion.
Pas l'accent québécois, c'est l'accent suisse.
C'est un peu pareil. Donc on va pas revenir sur Genève sous le côté. Enfin, il fait très froid, mais bon, ça c'est normal, c'est l'hiver. Hein.
Vous n'êtes pas allé là-bas pour faire un point météo, les mecs.
On pensait qu'il y avait le réchauffement climatique.
Non, en fait, le Black Movie, si on peut se faire une image du Black Movie, enfin l'image que j'en ai, c'est une ville de banquiers avec un festival
méchant banquier,
à l'honneur des films assez engagés.
Très engagés.
Très engagés. Et dans des lieux alternatifs, notamment le Sputnik. Qui est dans le quartier Crénios de Genève, c'est-à-dire que c'est le quartier le plus parisien de Genève. Oh.
C'est là où on peut acheter de la drogue. Voilà.
Enfin, il y a de la vie.
Enfin, il y a de la drogue.
De la drogue.
et donc voilà, donc effectivement, l'équipe est adorable. C'est enfin moi je n'ai pas vu que des films asiatiques et donc j'étais vraiment agréablement surpris par la qualité des films proposés.
Dans les éditions que j'ai couvertes, du coup, une très grande accessibilité aussi des réalisateurs, des invités. Il n'y a pas du tout
fou. Oui, c'est alors.
On est tous mélangés dans un.
C'est entre guillemets.
On ride un coach avec le réalisateur.
Ouais, enfin, en dehors de cadre, c'est sans doute le festival qui a été organisé dans une ville la plus grande pour moi.
Et au Black Movie, niveau film asiatique, n'est-ce pas? Vous avez pu voir Creepy et The Net. Alors on va commencer par Creepy. C'est le nouveau film de Kiyoshi Kurosawa, Kefren et Galen. Je vous donne la parole dans 2 minutes.
D'abord,
après,
je résume.
Le résumé, je vais le dire.
Je donnerai peut-être mon avis aussi, quand même. Alors, Creepy, on suit un ancien flic qui est devenu universitaire et qui s'installe dans une nouvelle ville avec son épouse. Et qui est confronté au cours de son travail en tant que prof, en fait, à revenir sur une affaire de disparition, si ma mémoire est bonne. Et en parallèle, en fait, on voit ses relations avec son voisin, qui est quand même particulièrement bizarre.
Qui est creepy.
Oui, il est creepy, voilà. Qui est particulièrement bizarre. Et qui se rapproche peu à peu de sa femme, donc au flic. Je suis un peu obligée de m'arrêter là, en fait, si je veux pas spoiler.
Non, mais, de toute façon, le film risque de sortir en France dans très longtemps. Voilà. Du coup, on va éviter de...
Je vais pas spoiler, mais... Ça va être difficile de donner
son... Ah ouais, ça va être difficile.
Mais je donne quand même mon avis, en fait. Et moi, Kurosawa, depuis Shokuzai, j'étais un petit peu sur la défensive quand j'allais voir ces films, parce que j'étais pas mal déçue.
Mais t'avais aimé Shokuzai.
J'avais adoré Shokuzai, ce qui est pas le cas de tout le monde. J'ai Vers l'autre rive, enfin Reel, déjà j'ai moins aimé. Vers l'autre rive, j'ai détesté. Et là, son film avec la starlette de hip-hop, ouais, là,
Seven Squad.
Oui, Seven Squad, je l'ai trouvé inutile.
Oui,
reste l'âge. Secret de
la Chambre Noire que je n'ai pas encore vu, en fait. Donc, comme ça, au moins, c'est.
C'est pas son meilleur.
Ah bon, on en reparlera. On
ça va être pour le prochain podcast.
Du coup, j'ai regardé Creepy en me disant, bon, qu'est-ce que ça va donner? Et là, je me suis retrouvée, en fait, quelques années en arrière, en regardant Cure et tous ces films qui ont fait la renommée de Kurosawa. Et je me suis dit, putain, c'est bon, il a enfin rebranché, en fait, avec. Il est enfin revenu à ses bonnes années. Il est revenu dans ce qu'il savait faire, parce que finalement, quand il essaye de faire du sentimental, pour moi, c'est toujours ultra kitsch, en fait. Et là, j'ai retrouvé le Kurosawa que j'aimais. C'est ultra cloque, c'est craspec. Il y a l'ambiance Kurosawa, en fait. Où on sent qu'il y a un truc ultra malsain.
Ça pourrait même être le troisième volet d'une trilogie, n'est-ce pas, Kefren?
Oui, justement, parce que dans la mise en scène, on retrouve des éléments, justement, comme le dit Elvire, on retrouve des éléments de la période de Cure et de Cairo, notamment une scène de bus qui font directement écho à Cairo et à Cure. Et justement, tout le film évoque cette période de la filmographie de Kurosawa, aussi bien dans les thèmes que dans les personnages et dans les interactions. Il arrive à se renouveler lui-même à travers justement la maîtrise qu'il a acquis de la mise en scène.
Oui, c'est moins cheap qu'avant.
Oui, voilà, et des choses comme ça qu'il avait, par exemple.
Cairo, c'est pas cheap. Hein.
Non, Cairo, non, mais Cure et tout.
Il avait l'esthétique J-Horror, donc pas beaucoup d'argent.
Même par exemple, Séance, en fait, quand tu vois les apparitions, oui. ça fait un peu mal aux yeux. Là, il a quand même plus de budget.
Oui, et en fait, il maîtrise sa mise en scène, sa caméra, ses placements. Et tout a comme ça un sens et tend à comme ça porter un malaise jusqu'au dernier plan. Qui est,
et le voisin, mon Dieu. Oui. Quel est l'acteur déjà? Je ne me rappelle plus du nom.
Teruyuki Kagawa.
Mais, en fait, je me suis demandé à un moment si le film, si sans lui, le film n'aurait pas juste été bof, sympa, mais sans plus. Non mais c'est sympa, il tient le film sur ses épaules, en fait. Ouais, il a un côté mais malsain, mais j'ai rarement vu ça dans un film, quoi.
Ouais, moi je me suis demandé comment il va s'en sortir ensuite, le pauvre acteur, quoi, parce que
pour moi, après un rôle pareil, en fait,
on peut plus, enfin moi je pourrais plus voir cet acteur le mec est extraordinaire, quoi.
Mais ce film est vraiment génial et je suis vraiment heureuse que Kurosawa est repris, en fait, est repris contact avec ses premières amours, quoi.
Du coup, tu partages cet enthousiasme, Régal?
Oui, oui, et j'avais interviewé Kurosawa en 2014, je
crois. Comme nous tous.
Ouais. Et j'avais trouvé, enfin, en tout cas, dans ce film, un apaisement, une vision un peu moins glauque, que effectivement sa période court.
C'est quand même bien glauque, quoi.
Non, mais justement.
Oui,
enfin, et enfin, il avait été surpris par cette question-là et enfin, il dit ah oui, je n'avais pas vraiment pensé à ça, quoi. Mais,
ah ouais.
Ouais, non, il était assez étonné. Enfin, il s'est dit oh, je n'avais pas pensé à ça. Dit, ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Et je me dis.
Il faut qu'il continue le glauque, en fait. Non, si il est meilleur en ça, quoi.
Enfin, mon côté un peu mégalo, je me suis dit, si ça se trouve, ça.
C'est
ça
grâce à moi, en fait, qu'il a fait creepy, quoi. Voilà. C'est grâce à toi qu'il a fait creepy.
Voilà, bon, ben, voilà,
non, mais pour moi,
Gaël Martin est derrière creepy.
Pour moi,
peut-être à l'origine de creepy, je sais pas.
Pour moi, si Kurosawa fait pas de glauque, il est un peu mauvais, quand même. Ça, c'est mon point de vue, même si.
Moi, je suis pas hyper fan.
Moi, je suis pas fan de ces films qui sont. Pas dans la veine justement de
Tokyo Sonata, c'est bien.
Moi, je trouve que
c'est
exactement l'exemple que j'ai.
Moi, Tokyo Sonata,
là,
j'ai trouvé à la limite. Moi, j'ai trouvé à la limite du lard moyen en fait. Tokyo Sonata,
non, mais ouais, c'est bien. Mais Tokyo Sonata, il y a vraiment une portée beaucoup plus.
Non, mais je trouve qu'il arrive rapidement dans le kitsch quand il est.
Il frappe le chat.
Oui, bah, le chat est violent. Je peux t'arrêter.
Je peux comprendre
ce que j'ai commencé à dire.
C'est chaud.
C'était la partie que je voulais envoyer au Black. On a fait une super couverture.
Non, mais je repense que Kurosawa, en fait, quand il est pas dans le sombre, pour moi, il est vraiment dans le guimauve à chaque fois, en fait.
Moi, je suis un peu d'accord avec toi.
Il maîtrise parfaitement les sujets glauques et sombres, et maîtrise moins les sujets plus optimistes, plus émouvants. Il y a toujours un côté kitsch. Je ne sais pas pourquoi il ne maîtrise pas.
Apparemment, le côté plus optimiste, tout ça, c'est un peu, entre guillemets, forcé. Justement, c'est après Fukushima, en fait. C'est...
Ah ouais, mais quand c'est forcé, ça marche pas.
Le truc qu'il a dit, vu ce qui s'est passé, je pouvais plus, quoi. Enfin, il avait, avec Kero, j'avais prévu la catastrophe, quoi. Je pensais que, de toute façon, il fallait détruire. Enfin, voilà, c'était ce côté un peu de destruction, quoi. Mais,
après, c'est là où il est le plus joué, quoi.
Oui, mais après Fukushima, j'ai dit, maintenant c'est quasiment arrivé. Enfin, lui, oui. Fukushima, le 11 septembre 2001.
Tout est foutu, tout est
mort. J'étais plus dans une optique de.
D'optimisme, quoi.
Maintenant, j'avais plus envie de montrer le côté un peu plus positif. Mais effectivement, moi je suis d'accord avec toi.
C'est moins efficace, quoi.
Ouais, moi je trouve que ça fonctionne beaucoup moins, quoi. Et là, il revient, heureusement.
Il revient au glauque, mais voilà. C'est là où il réussit mieux, quoi. Enfin, alors qu'il s'y passe, en fait.
Mais ceci dit, moi j'aime beaucoup Creepy. Mais c'est vrai que j'ai une interprétation très particulière du film, qui est sans doute pas du tout.
L'interprétation très bourgeoise du film.
Du cinéaste.
C'est-à-dire
Moi, je pense ça. Nuit debout.
Nuit debout, c'est-à-dire. C'est quoi le rapport?
C'est le côté. Enfin, en fait, je vais devoir spoiler, quoi. C'est ça.
Tu es un bourgeois. Tu es un bourgeois.
On en parle après, si tu veux.
Ouais, enfin, on en parlera après, quoi. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec ce que veut faire Kurosawa. C'est moi, c'est ma vision.
Ça peut être. Tu vas écrire un article dessus
sur pas des politiques du film.
Débauche, Victor débauche en plein podcast.
Non, mais on en verra du coup le lien vers l'article.
Ça m'intéresserait de lire en fait ce que tu penses du côté politique, parce que moi je l'ai absolument pas vu en fait.
Moi je pense qu'il n'y est pas en fait.
Ah d'accord,
mais du coup ça m'intéresse parce que.
Alors Kefren pour conclure sur ça.
Non, les deux ils ont discuté, mais moi je suis absolument pas d'accord. Kurosawa il est bien tout le temps.
Oui, enfin allez, politique d'auteur. C'est mon expression magique ce soir, en fait.
Non, mais son film avec la
pop. C'est Vince Scott, c'est sérieux, ça sert à rien, ce film.
C'est un exercice de style.
Attendez, moment magique, Kefren, je te retiens, parce que quand j'utilise l'expression exercice de style, tu détestes. Donc là, c'est juste l'argument pour dire c'est à chier, mais j'aime quand même parce que c'est Kurosawa.
En général, quand il y a une jolie fille, moi j'ai tendance à dire que le film est un chef-d'œuvre. Elle est très jolie, mais c'est le film est mauvais.
Non, vous y attendez au twist et tout.
Non, mais c'est.
Non, mais il sert à rien, c'est un coup de cul ce film, quoi.
Ah.
L'autre,
tu sens que c'est la star qui dirige.
Oui, c'est, bah, c'est un coup de pub, quoi. C'est tout. C'est un film foufouille asiatique.
Non, mais il faut dire que c'est un film. Il faut dire que Seven Squad n'est un film qu'en France, en fait. Au Japon, c'est juste un bonus sur un DVD.
Bah oui, mais ça mérite pas plus, en fait, qu'un bonus sur un DVD. Oui, non, mais ça mérite pas plus.
Et Kurosawa, quand il est venu le présenter à Kinotai en 2014, il a dit lui-même qu'il est étonné qu'on le projette dans les salles de cinéma.
Mais mon film est à chier, voyons.
Seven Squad était son film le plus godardien de tous les temps. Exactement. J'ai aimé.
Est-ce qu'elle est creepy? On peut parler de The Net, Elvire.
Oui, on peut en parler, même si ce sera moins positif. Donc The Net de Kimchida, qui fait pas mal de films qu'on a du mal à voir, objectivement. Il a fait un film, et il a fait Stop, qui était passé, que certains avaient vu au marché du film à Cannes. Voilà, après là il est en train de faire un film avec la Chine, donc il aura peut-être un peu plus de budget que 3$.
T'avais vu Stop au marché du film, t'étais sorti, t'avais dit putain.
C'était haché apparemment, non?
Non, c'est pas mal.
Pas mal, ok.
C'est pas ce que tu m'as dit.
One and One qu'on avait réussi à voir.
Qui était un putain de film.
Que j'ai pas trouvé exceptionnel, mais c'est en fait. C'est parce que j'aime pas le côté ultra rebelle adolescent de Kim Ki-duk, mais
très consensuel, au contraire.
The Net, qu'il a réalisé avec pas beaucoup d'argent à mon avis, qui suit, donc voilà, mon résumé, qui suit en fait un pêcheur nord-coréen. On voit rapidement vivre avec sa femme et sa fille, qui s'en va tout comme chaque matin en fait pêcher, enfin relever ses filets. Et qui, suite à une panne de son bateau, se retrouve en fait à la frontière maritime sud-coréenne, qui passe en Corée du Sud sans le vouloir. Et donc forcément, il se fait arrêter par les services de renseignement sud-coréens, il se fait interroger. Donc s'ensuit de longues scènes d'interrogatoire, où la Corée du Sud en fait le prend d'abord pour un espion, puis se rend compte qu'il n'est pas forcément un espion, mais dans ce cas-là, ce serait bien qu'il vive en Corée du Sud quand même. Donc ils vont tout faire pour le convaincre de rester en Corée du Sud. Face à une détermination sans faille du Nord-Coréen, il le renvoie en Corée du Nord. Désolé, je vais spoiler, mais en même temps, c'est pas un film, en fait. Mmh.
Ça arrive au combien de temps du film
Ou il le renvoie en Corée du Nord c'est plutôt sur la fin, en fait.
Oui,
il oui, leur... c'est, oui c'est vraiment...
Oui, non, mais
c'est pas...
le principe du film.
Il n'y a pas d'enjeu, en fait, sur le scénario. Hein. Il le renvoie en Corée du Nord, donc sur la fin du film, où évidemment, il est acclamé en fait comme un héros, mais on sait très bien ce qu'il attend, un interrogatoire, parce qu'il est pris pour un Nord-Coréen qui se serait fait enrôler par la Corée du Sud, double agent. Et je raconterai pas toute la fin. Alors, Kim Ki-duk, j'aime pas particulièrement, comme chacun sait, à part quelques films, mais je vois tous ces films quand même. Donc j'ai regardé ce film-là en me disant, bon allez, on va voir ce que ça va donner. Et en fait, très rapidement, malgré le manque de moyens financiers, qui peut pardonner beaucoup de choses, j'estime que ça ne peut pas pardonner en fait une image crado, une mise en scène quasiment inexistante. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais une direction artistique catastrophique pour moi. C'est ultra. Mais les acteurs coréens surjouent en général, mais alors là, c'est ultra surjoué. Enfin, c'est. Et un scénario qui est très très caricatural, qui ne change pas trop des films de Kim Ki-duk en général en fait. Oui, alors le but du film c'est de montrer que la Corée du Sud avec la Corée du Nord, c'est le même, finalement c'est, il se passe la même chose dans les deux pays. On n'avait pas besoin de Kim Ki-duk pour le savoir.
Non, il dit pas ça, il dit que quand t'es pauvre, tu restes dans ta condition malgré le.
Oui, mais on n'avait pas besoin de Kim Ki-duk pour le savoir non
si,
plus.
Si,
en fait.
Justement, parce que. On pense qu'en Corée du Sud.
Non, mais nuit debout, ça va. Non, mais j'ai trouvé ce film vraiment à chier. Autant j'aime pas les films de Kim Ki-duk, mais j'ai toujours trouvé ces films attachants. Il est très maladroit, il a pas de moyens.
Il y a des gens qui sont coupés la bite et tout.
Oui, mais il y a. Mais Mobius, moi j'avais bien aimé en fait. Parce que j'avais trouvé que l'exercice de style était intéressant. Non, mais il y avait une vraie proposition artistique, Kefren. Et je l'avais trouvé très intéressant. One on One, j'ai pas aimé, mais j'ai. Enfin, il y a un côté toujours attachant chez Kim Ki-duk parce que tu sens qu'il a des choses à dire. Mais là, j'étais face à un film où j'avais l'impression qu'il avait rien à dire, en fait, si ce n'est ce qu'on sait déjà tous. Ben non, ou alors pas forcément tous, mais peut-être moi, je sais pas. Peut-être parce que je m'intéresse à la Corée du Nord et à la Corée du Sud.
Il faut savoir à qui s'adresse le film aussi.
Ben je sais pas à qui s'adresse.
Coréen du
mais
Sud.
Il s'adresse pas aux Coréens, le film Kim Ki-duk est détesté en Corée.
Bah là,
qui c'est qui va le voir en Corée quoi. Plus, hein, non mais oui, je suis d'accord. Mais personne en Corée du Sud regarde les films de Kim Ki-duk. Donc il s'adresse à qui finalement?
Alors moi, je l'avais un peu abandonné
il y a
50 ans. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu le voir là. Le Black Movie, c'est que depuis un certain temps, je suis adopté par East Asia. Mais je vous remercie.
Merci à toi, Nuit de vous.
Voilà. Et donc, effectivement, j'ai un peu perdu le fil de sa filmographie. Et donc, je reviens sur Kim Ki-duk. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Enfin, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas clairement pas un chef-d'œuvre.
On dirait un téléfilm des années 90, bordel. C'est moche, quoi.
Je m'en fous de la moche. L'esthétique, le fait
y a un minimum,
de faire des images, m'en refoule.
Non, mais il y a un minimum, là. C'est pire qu'à l'épisode de Derrick, tu vois. Même Derrick, c'est plus sympa.
Derrick, c'est intéressant, moi.
Pas d'accord, ok.
C'est un ancien nazi qui devient un peu commissaire de police.
Non mais même s'il décrit des trucs moches, c'est mal.
C'est que clairement, c'est pas le film de Kim Ki-duk qu'il faut absolument voir, quoi. Mais c'est un film que j'ai. Une bonne série B. Pas une très bonne série B, mais une série B qui tient la route et en plus qui tient effectivement, un discours politique qui forcément. Peut te déplaire.
Et je suis pas sûr en fait, je suis pas sûr qu'il choque tant la population sud-coréenne que ça en fait. Il va peut-être choquer les politiques sud-coréens parce qu'ils sont choqués partout de toute façon.
La population.
Oui, ça par la corruption.
Sud-coréens sont un peu virants en ce moment.
La population. Non,
avec une présidente qui est la fille de l'ancien dictateur.
Mais la population.
Il y a un truc qu'on oublie quand même de dire, c'est que la Corée du Sud, même si tu es au courant, mais les auditeurs du podcast ne sont pas forcément hyper au courant, mais que la Corée du Sud, ça fait très peu de temps que c'est une démocratie.
Oui, c'est une fausse démocratie d'ailleurs.
Et que la présidente actuelle qui. Depuis un certain temps, on dit je vais démissionner, mais je ne démissionne pas. Et la fille de l'ancien dictateur. Voilà. Donc c'est assez proche. Et ce que montre Kim Ki-duk, c'est que les techniques d'interrogatoire.
L'intimidation, finalement.
L'interrogatoire, en fait, sont. C'est des gens qui sont. Ou bien qui étaient enfants durant la dictature. Ou bien ont eu des parents qui ont subi la dictature en Corée du Sud et qui reproduisent en fait les mêmes mécanismes dans une démocratie. Et ça pose.
Pour la Corée du Sud, dans une démocratie, quoi.
Oui, mais voilà, je parle de la Corée du Sud qui est une démocratie actuellement, même si. Il y a encore les réflexes de la dictature parfois.
Oui, mais du coup, ça semble être un miroir inversé de One and One.
Avant de passer à One and One, si je peux. Permettre. Ce que je voulais dire, c'est que je suis pas sûre que.
Non, tu ne te permets pas.
Merci, Marc. Ce que je voulais dire, c'est que je suis pas sûre que ça choque tant que ça la population sud-coréenne. À mon avis, est quand même assez lucide sur ce qui se passe dans son pays. Par contre, un point positif. Non, ils sont quand même pas cons, quoi. Nous, on est au courant de ce qui se passe dans notre pays.
J'ai pas encore vu. Je vois pas pourquoi ils seraient au courant. Ils sont renvoyés à la Corée du Nord dans un système dictatorial, alors que pour eux, c'est l'ennemi, le miroir.
Non, c'est pas tant que ça, en fait.
Assez problématique.
Non, parce qu'en fait, on oublie en fait que la jeunesse, en tout cas coréenne, pas forcément la Corée du Nord comme un ennemi absolu, en fait. Ils s'en foutent. Il y avait une scène que j'avais beaucoup aimée, malgré le film que je trouve très mauvais du début à la fin. Non, c'est la scène en fait où le héros se retrouve paumé dans Séoul, où on sent en fait que les autorisations de tournage, etc., n'ont pas vraiment été faites.
Oh, le tournage est derrière.
Où les passants se retournent et disent « Putain, mais c'est le son bon, mais qu'est-ce qu'il fout dans la rue en fait ?» Et j'ai trouvé cette scène bien foutue. Et je me suis dit, putain, là, il y a un moment de cinéma.
Il y a cette scène-là, effectivement. Enfin, pour moi, encore une fois, je dis, c'est vraiment, pour moi, une très bonne série B. Enfin, voilà. C'est pas forcément le meilleur film de Kim Ki-duk. Mais, effectivement, il y a cette scène qui est assez marquante, de cette errance dans Séoul. Et sinon, il y a le dernier plan.
Oui,
plan final qui est.
C'est un plan marquant, un plan coup de poing, on va dire.
Bah ouais, mais ça fonctionne très bien. Et vraiment,
Moi qui étais un peu attendu, j'avoue.
Alors, Gaël, comme tu as la parole, est-ce que tu as un coup de cœur à nous présenter du festival Black Movie?
Alors, je reste dans la thématique Asie. Je vais vous parler d'un film gabonais. Le Gabon, région d'Asie. Mais en fait, l'Africain qui voulait voler, donc un film gabonais, mais qui parle beaucoup de la Chine en fait, du cinéma chinois, et des films de Wu Xiaqian où les combattants volent dans les films, et donc c'est l'histoire d'un gabonais qui s'appelle Luc Benza. Et qui à 14 ans en fait a décidé de quitter le Gabon pour aller en Chine et pour apprendre à voler comme les Chinois.
Voilà, sur les toits.
Voilà, sur les toits, dans les bambous.
Comme dans Tigre et Dragon.
Comme dans Tigre et Dragon, voilà. Bon, il avait 14 ans, enfin voilà. Bon, c'est pas, la réalisatrice en fait ne suit pas le parcours de ce jeune homme. Ce jeune homme maintenant est devenu vieux, enfin il a 50 ans. Et donc très vieux pour Pépère, en tout cas.
Effectivement. Deux doigts de la mort.
Voilà, deux doigts de la mort. Et donc voilà, donc c'est un portrait ultra touchant et ultra drôle de ce Gabonais qui arrive en Chine et qui fait face à des illusions sur le fait que les Chinois ne volent pas. C'est des effets spéciaux. Voilà. Et en même temps, lui devient un spécialiste du wushu, qui est l'art martial en fait développé notamment par Bruce Lee, et devient un maître du wushu en fait, comme africain, comme un gabonais. Et sauf que en Chine, c'est l'art martial chinois par excellence, et forcément qu'un noir puisse devenir un des spécialistes du wushu, c'est assez problématique. La réalisatrice parle d'une situation complètement loufoque et englobe en fait parle de cinéma, donc de cinéma asiatique, notamment le cinéma d'art martiaux chinois, hongkongais, enfin voilà, et également parle de la situation politique aussi bien en Chine que en Afrique et au Gabon, parle du racisme des Chinois vis-à-vis des Africains qui viennent en Chine pour bosser, parle également des Gabonais qui finalement rejettent l'Ubenza quand il revient, maintenant qu'il a fait une vraie, enfin qu'il a une carrière, il revient un peu, il a ici, et parle du fait que les Gabonais le rejettent et le traitent de chinois. Et ce film est complètement fou et hyper, c'est très 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 drôle, c'est passionnant, et en même temps, c'est pour moi, c'était la révélation
du Black Movie.
Du Black Movie, ouais.
Est-ce que tu peux rappeler le titre et la réalisatrice de ce film?
Alors, le titre, donc, c'est L'Africain qui voulait voler. La réalisatrice, c'est Samantha Biffaut, qui, là, actuellement, est aussi la réalisatrice de la série Parents Mode d'Emploi, une version gabonaise. Enfin, les gens connaissent
Parents.
Je vous conseille, elle-même a conseillé de voir la version gabonaise de Parents Mode d'Emploi sur YouTube. Oui. Et il faut la regarder parce que c'est très sympa. En fait. Enfin, je crois que j'ai pas du tout accroché à la version française, mais la version gabonaise est très sympa. Voilà. Mais alors, le documentaire n'a rien à voir avec la série.
Kefren, est-ce que tu as un coup de cœur aussi de cette émission 2017 du Black Movie?
Oui, et je parle aussi au nom de Elias, qui a beaucoup aimé le film. C'est le film Kapatiran, qui est un film philippin. En fait, le film part sur un sujet qui est en fait les fraternités dans les universités philippines. Ils sont un peu similaires aux fraternités des campus américains. Et en fait, ces fraternités ont un rôle dans la société philippine et définissent déjà les classes et qui sera important et qui ne le sera pas. Et à partir de ce postulat, en fait, le réalisateur part sur une espèce d'errance où à chaque fois il confronte les plans des bourgeois qui sont dans les fraternités et ceux des pauvres de Mani et des autres villes qui dans la rue comme ça font des combats de nains ou font des combats de poules ou des choses comme ça, ou sinon ça essaye de vivre pendant les inondations ou des choses comme ça. Et en fait, le film, c'est une captation d'instants comme ça qui forment un peu les Philippines. Et on a même l'impression que des fois, il suffirait d'allumer sa caméra dans une rue aux Philippines pour qu'il se passe un truc extraordinaire. Et le film raconte un peu tout ça, en fait. Et il y a Lav Diaz aussi qui joue un mec un peu pourri. Et donc, et voilà, ça dit peut-être quelque chose.
Sur Lav Diaz.
Sur Lav Diaz. Mais comme il est dedans. Et sur les Philippines, justement. Donc voilà, et le retour, c'est Pepe Diokno, c'est un jeune réel qui est aidé par Mendoza, comme on l'a vu à la fin.
Ah, et Mendoza, il faut le dire.
Ce qui est assez étonnant.
Il est aidé par Mendoza, on sait comment il les aime.
Voilà, et ce qui est assez étonnant dans le comment film décrit la Philippine de manière contrastée, sachant que Mendoza maintenant est.
Il est un fasciste.
Est allié à l'Orté.
C'est moi la fasciste.
Voilà donc Mendoza, invité du Black Movie, il y a deux éditions, et on ne sait pas ce qu'on reverra aux prochaines éditions, vu ses orientations politiques actuelles. Du coup, on ne va pas parler de Gérard May, parce que de toute façon, il n'y avait pas de film asiatique.
Et puis c'est de la merde.
De
ce qu'on pouvait trouver en termes de production britannico-iranienne sur Netflix. Le crédit de Under the Shadow, il y avait effectivement Kurosawa qui était, qui était invité.
Il y avait aussi donc, un film colombien dont j'ai oublié.
Et Terraform Mars de Takashi qui était présenté après plusieurs, plusieurs collections par ailleurs.
Le programme est génial, Gérard.
Voilà, donc Gérard May, cette année, on va dire qu'on attend éventuellement l'année prochaine pour pouvoir en parler un peu plus de manière un peu plus importante.